Merci et bienvenue à toutes et à tous. Ce soir, l'heure bleue avec Catherine Deneuve numéro 2. J'ai proposé à Catherine d'inviter une personne de son choix et nous avons la chance d'avoir dans cette émission Gilles Clément. Bonsoir à tous les deux. Et on va commencer en musique. Et pour Catherine, c'est plutôt pour Catherine la première chanson, c'est Eminem. Ah. Alors, expliquez-nous, Catherine, pourquoi vous avez invité Gilles Clément.
Parce que j'aime beaucoup la nature, j'aime les jardins, et que j'ai vu, lu et vu des choses qu'il a réalisées, et que ça me touche beaucoup. parce que c'est à la fois la nature comme je l'aime, c'est-à-dire qu'elle est à la fois c'est la nature apprivoisée un peu par l'homme, mais c'est une nature très naturelle. Et voilà, je connais des paysagistes, il y a de très grands paysagistes, et pour moi, Gilles Clément est quelqu'un qui marie vraiment la nature sauvage avec la nature domptée.
Quand avez-vous commencé à jardiner, vous?
Oh, très jeune, parce que ma mère essayait de faire un jardin dans une falaise de calcaire à la campagne où on avait une petite maison qui était un ancien garage à bateaux et que je la voyais piocher. J'ai réussi à faire un jardin en espalier comme ça pour. Voilà, donc j'étais enfant, je devais avoir, je sais pas, 7-8 ans. Moi, je dis pas que je jardinais à l'époque, mais je m'intéressais beaucoup. La nature me plaisait, j'allais aller dans les bois, j'allais cueillir des fleurs, j'allais cueillir des mûres, je faisais des confitures. Très jeune, oui, ça m'a plu.
Et vous avez continué après ça.
Après, j'ai continué, puis j'ai eu la chance de rencontrer une femme assez extraordinaire qui est morte malheureusement, qui s'appelait Charlotte Testu, qui a écrit des livres sur les plantes tout à fait extraordinaires parce qu'elle avait une formation littéraire. Donc elle a écrit des livres dont les descriptions sont extrêmement poétiques et même parfois érotiques, je trouve tellement. C'est pas du tout comme un dictionnaire, c'est vraiment des choses de la. Enfin, c'est une femme très très cultivée et très très très, très particulière. Enfin, qui n'écrivait pas comme on écrit en général dans les livres sur les jardins et sur la nature. Et j'ai eu la chance de la rencontrer et j'ai fait mon premier jardin, le jardin de ma première maison à la campagne avec elle et j'ai vraiment beaucoup appris, elle m'a vraiment confirmé dans le goût que j'avais de ça et après ça s'est décuplé, enfin c'est devenu vraiment quelque chose qui est devenu très très important dans ma vie. Elle m'a vraiment communiqué quelque chose de très précieux.
Vous l'avez toujours, ce jardin?
Non, j'ai changé de maison, je ne l'ai plus, mais ça m'est arrivé d'aller le voir grandir parce que c'est pas très loin de la maison où c'est pas très loin de là où je suis.
Et vous jardinez toujours aujourd'hui?
Oui, enfin pas aujourd'hui même, mais j'ai jardiné encore il n'y a pas très longtemps et dans quelques mois parce que je change de maison.
Avec un jardin, la nouvelle.
Oui, plutôt je dirais des espaces, des prairies, des champs autour, des espaces. Parce que les jardins, ça demande. Là, j'étais dans une propriété très importante où il y avait un très très beau jardin. Enfin, surtout, oui, un jardin que j'avais fait avec un paysagiste que j'aimais énormément qui s'appelait Jacques Wirtz et avec qui j'ai travaillé longtemps, pendant plusieurs années. Et c'était quand même un peu lourd, donc la sagesse et le temps font que j'ai décidé de passer à quelque chose de plus naturel, plus facile et moins grand.
Et pour vous, Gilles Clément, ça a commencé aussi très jeune, cette passion du jardin. Tout petit, vous intéressiez aux insectes,
Oui, voilà, moi je suis tombé
d'abord les
dedans comme
insectes.
ça. C'est plutôt par les insectes, oui. Je ne savais pas du tout ce que je ferais. Mais en observant les insectes, on rentre très très vite dans un ensemble qui est la liaison de l'insecte avec la plante, de tout ça avec un oiseau et puis peut-être un lézard en plus, vert même. Bon, qui fait un peu peur quand on est petit, mais qu'on finit par apprivoiser. Et ça a été une manière de rentrer dans ce qu'on appelle aujourd'hui les écosystèmes. Moi, je ne savais pas, ce n'étaient pas des mots qu'on connaissait à ce moment-là, bien sûr. Mais plus tard, quand je me suis trouvé, j'étais mauvais, hein, j'étais un mauvais élève, je ne savais pas du tout. Enfin, bon, je passais d'une classe dans l'autre difficilement, j'en ai doublé plusieurs. Et un jour, comme ça, une prof de sciences nat, ça s'appelait comme ça à l'époque.
Oui.
Mais ça a changé un peu aujourd'hui, bon. Me
Moi
dit,
aussi,
bon,
ça me
ben
plaisait
voilà.
beaucoup les sciences naturelles.
C'était bien, hein? Ouais. Et me dit, ben, y a un métier qui existe, ça s'appelle paysagiste. Mais alors, voilà, c'est elle, grâce à elle.
Et vous aviez quel âge?
Classe de seconde,
Ah oui.
avec 2 ans de retard, mais classe de seconde, quoi. Voilà.
Ah oui, ça c'est merveilleux de découvrir ça si tôt.
Oui, c'est pas mal, parce qu'à partir du moment où j'ai su où j'allais, je suis devenu moins mauvais, quoi.
Mais
Je
forcément, parce
travaillais.
qu'on prend confiance en soi,
Ouais.
on s'épanouit quand même.
Voilà. Ça change tout, en fait, tout.
Ouais.
Même si le travail à faire était assez bizarre, puisqu'on me demandait de passer par les études d'ingénieur. Moi, je n'avais pas
Ah
pensé ça
oui.
du tout. Parce qu'à l'époque, les paysagistes, c'était une sorte de spécialisation d'une école d'ingénieur.
Ah
Ça a
oui.
changé depuis, mais c'était la seule voie. Donc j'ai fait ça, malgré tout.
Mais la notion de paysage, elle a commencé à être transmise à l'intérieur de l'université, enseignée. Il y a toujours eu des paysages, bien évidemment, mais cette notion-là de paysagisme...
Pas tant. Oui, c'est ça.
Elle est nouvelle.
Tout à fait.
Même si nos grands-mères, nos arrière-grands-mères savaient faire le jardin, savaient faire le potager, que ça rentre à l'intérieur d'un champ culturel et que vous, Catherine, vous ayez fait appel à ce Jacques Wirtz, qui est un merveilleux...
Oh, un homme merveilleux, oui. Un homme merveilleux, ça, vraiment.
Un grand monsieur d'origine belge qui a inventé une
très
manière...
charmant, très simple, très naturel.
Horticulteur aussi.
Mais expliquant qu'il avait commencé comme... travaillant la terre et tout ça, étant ouvrier, enfin, travaillant dans des jardins et tout ça à l'âge de 15 ans. Hein, il a commencé par travailler la terre avant de... Non, c'est un personnage vraiment très étonnant.
Qu'est-ce qu'un paysage pour vous deux?
Moi, un paysage, alors vraiment, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être vraiment quelque chose qui tient dans un cadre comme ça, qui est la largeur de mes yeux, donc c'est... Mais ça peut aussi être d'un seul coup, comme j'étais la semaine dernière en Bretagne, c'est-à-dire un paysage où le ciel et la mer prennent 90% de mon espace visuel. Donc c'est... Moi, je vois des paysages tout le temps. Je vois des paysages à Paris, dans les encombrements, quand je m'arrête, place de la... Ben, quand je suis bloquée, par exemple, place d'Iéna, je vois ce pauvre Ginko qui est à l'angle là, du musée Guimet, qui est en train de souffrir terriblement. Puis un peu plus loin, Trocadéro, il y a deux érables pourpres magnifiques. Je me dis, oh, j'espère qu'ils vivront encore longtemps. Et puis je me dis, pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis des Ginko à Paris, qui est un arbre si résistant et qu'on continue à planter des platanes? Pourquoi est-ce qu'on a mis ça sur les Champs-Élysées alors qu'on a tout enlevé, les platanes, on les a enlevés aussi, ceux qu'il y avait? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas replanté quelque chose de plus résistant, de plus... Voilà, des choses comme ça, même dans Paris, même partout. Enfin, je vois toujours des paysages, moi, partout.
Et vous, Gilles Clément?
Ben, je rejoins beaucoup ce que dit Catherine. C'est ce que je définis ça comme étant ce qui se trouve sous l'étendue du regard. Donc il y a un paysage ici dans cette pièce aussi. Alors pour les non-voyants, c'est ce qui se trouve sous l'étendue de tous les autres sens. C'est-à-dire qu'on peut le percevoir par le toucher, l'odorat, etc. Et c'est donc quelque chose de sensible et d'assez personnel de ce fait. Si je mets des étudiants, puisque moi je suis une activité d'enseignant pendant de nombreuses années, je continue un peu... Devant le même paysage, il y en a 30, et voilà, il y aura 30 lectures différentes. Parce qu'il y aura 30 vécus, 30 ressentis. Donc c'est tout à fait l'inverse, c'est l'opposé, mais c'est un peu différent, évidemment. Mais bon, quand même l'opposé de ce qu'on appelle l'environnement, c'est un vilain mot, je ne l'aime pas du tout, mais qu'est-ce que ça nous met à distance de quelque chose qu'on... En fait, on est plutôt immergé dans cette nature plutôt qu'à distance, c'est ma vision. Mais enfin, on a utilisé ce mot-là, et effectivement, la lecture de ce dans quoi nous sommes par l'environnement, elle est scientifique. C'est une espèce d'espéranto qu'on partage dans le monde entier. On va analyser le sol avec les pH, les mesures de décibels, du son, de je ne sais pas quoi, de la même façon. Mais là, il n'y a pas de subjectivité du tout.
Mais en fait, c'est à chacun son paysage. Si on voit le même paysage côte à côte, si on est tous les trois, on percevra des choses différentes.
Ah bah oui, tout à fait.
Oui. Et il rentre, évidemment, les odeurs... nature du vent, la matière des couleurs, la perception de la beauté, tout ça c'est très subjectif.
Oui, parce que chacun le vit différemment, mais on peut partager cette subjectivité si en plus on a un fond culturel commun, ce qui est quand même assez général, mais pas toujours. Hein. Je dis pour donner un exemple un peu caricatural, que si on met quelqu'un du Limousin, moi je suis du Limousin, si on met quelqu'un... du Limousin dans son pays, et puis un autre qui vient de Nouvelle-Guinée, c'est un papou, et puis on le dit à l'un, alors c'est quoi votre... Qu'est-ce que vous voyez? Il y en a un qui va dire c'est vert, il a plus tanné, il y a beaucoup de sa pousse, etc. Et l'autre, il dira c'est amer. Parce que dans sa culture à lui, le vert correspond à quelque chose qui est lié au goût. Donc la charge culturelle a quand même un rôle dans la lecture du paysage. Mais enfin, a priori, si on est dans... Il y a des mots qui... Par exemple, en indonésien, en Indonésie, je suis allé souvent, le mot paysage n'existe pas en indonésien. Il y a point de vue. Mais il n'y a pas de paysage.
Oui. Ah, c'est intéressant.
Oui. Chez nous, c'est arrivé beaucoup par la peinture, les paysagistes. Et puis ensuite, c'est transformé en métier de... Soi-disant, en transformant... Enfin, c'est pas sûr qu'on y arrive, mais... Les paysages qu'on a sous le regard, en tout cas on intervient, oui, ça c'est sûr.
Il y a des intellectuels, des théoriciens de l'art qui disent que les paysages qu'on croit « naturels », entre guillemets, puisque je sais que vous êtes un théoricien du naturel, de l'écologie, de la friche, on y reviendra peut-être dans cette émission, Gilles Clément, mais il y a des historiens de l'art qui disent que les paysages que nous on trouve naturels, Par exemple, les paysages très très beaux de l'Italie la plus profonde ont été quand même façonnés par le regard de l'homme, comme si l'homme, même sans y faire une opération extérieure, le paysage est toujours construit. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée-là ?
À partir du moment où les hommes ont commencé à habiter dans des endroits qui n'étaient plus, enfin qui n'étaient pas des villes, à construire des maisons dans la nature, forcément ils ont façonné la nature autour d'eux quand même. Alors que ce soit en creux ou en plein, ou que ce soit en Italie, où c'est vrai qu'en Italie, il y a une telle différence entre le nord et le sud, mais par exemple au nord de l'Italie, on n'imagine pas le nord de l'Italie sans ces cyprès magnifiques qui viennent comme ça prendre les maisons, et même des fermes, d'ailleurs même des maisons très, très simples. Hein. Je veux dire, moi je suis toujours très étonnée de voir en Toscane la beauté de certains jardins, la simplicité et la beauté de certains jardins pour des fermes très belles et des très simples. Donc oui, je pense que l'homme, forcément... Le problème, c'est quand l'homme... veut trop dompter la nature, que c'est... Moi, on m'avait raconté une histoire, je ne sais pas si elle est vraie, mais je trouvais ça tellement joli. On m'avait dit que Louis XIV, quand il avait visité ces jardins faits par le nôtre, il lui avait demandé évidemment ce qu'il en pensait. Et ce qu'il disait. Il disait, c'est très beau, mais il faudra m'y mettre un peu d'enfance. Et j'avais trouvé que c'était vraiment... Je trouve que c'est vraiment... Je ne sais pas si c'est vrai, mais je trouve ça très joli comme mot.
Et vous, Gilles, qu'en pensez-vous de cette idée du paysage qui est toujours... inéluctablement construit par l'homme, façonné, Catherine.
C'est un peu ce que j'appelle le jardin planétaire. Le jardinier est partout, l'humanité est répandue absolument partout. Mais ce qu'évoquait Catherine là, c'est que c'est même dans une intervention qui est modeste, il y a une transformation. L'Anthropocène, pour moi, il commence là, c'est-à-dire à la première sédentarisation. C'est très ancien. Il y a vraiment eu. Il y a même des paysages dont on pense qu'ils n'ont jamais été transformés. On appelle ça des forêts primaires en Amazonie, en Guyane.
J'en ai
ou
vu
ailleurs.
Au Portugal. J'ai tourné même, je me souviens, avec Manuel de Oliveira près de Setúbal, et c'était dans une forêt primaire. Et alors, je crois que c'est la première fois que je voyais une forêt primaire. Moi, j'imaginais une chose absolument gigantesque avec une voûte, vous savez, avec vraiment une. Pas du tout, c'était des arbres finalement pas très grands, très tortueux, c'était vraiment quelque chose de très assez sec et bon, et protégé évidemment puisque il y en a très peu. En Europe, je ne sais même pas d'ailleurs où il y en a, mais celle-ci c'est une vraie forêt primaire au Portugal, à 1h30 de Lisbonne. Mais j'étais étonnée de voir la taille des arbres, quoi, qui n'étaient pas des arbres très grands.
Non, dans ce climat-là, non. Non. Mais dans des climats tropicaux, oui, bien sûr,
oui,
ça donne.
Oui, oui.
Mais parfois, on peut se tromper en interprétant ça comme un lieu qui n'a jamais été touché ou approché par les humains, alors qu'il y a des Amérindiens qui vivent avec ces endroits-là et qui font des sortes de jardins qu'on ne voit pas. Ils interviennent quand même, donc il n'est pas vraiment complètement primaire. Ce qui n'est pas dangereux, là, dans ce cas-là, il n'y a pas de dégâts. Forêt primaire, en Europe, il n'y en a pas, non. Il y a la minuscule forêt de Derboran sur un relief du Valais suisse, chanté par Ramu, comme ça, bon voilà, mais qui est vraiment très petit, puis un peu en Pologne, il paraît. J'ai jamais été voir ça, mais c'est rien.
Le Portugal non plus, elle n'est pas très grande, cette forêt d'ailleurs, non. Elle est protégée, bien sûr, mais c'est pas très grand.
Donc l'Anthropocène commence, il y a très très longtemps, transformation de plus en plus forte, gagnant des surfaces importantes, jusqu'à ce que par l'illusion de la maîtrise, on en arrive à toucher absolument à tout et à arriver à l'exploitation industrielle du territoire. Et pour moi, ça change de terme, ça s'appelle le stupidocène. C'est au milieu du 19e siècle. Ça commence comme ça. On est dans un pic
du stupidocène
aujourd'hui.
Et aujourd'hui ?
Oui, on est dedans.
Encore ?
Ah oui, on est dedans.
Toujours ?
Ah oui, en plein.
Donc, en fait, nos attentats perpétrés contre la nature dont on nous dit que ils s'accélèrent terriblement depuis 20 ans. En fait, ils ont commencé depuis beaucoup plus longtemps.
Non, pas, ils ont commencé au milieu, vraiment, pour moi, au milieu du 19e, c'est l'époque où on dit, où la technique nous amène à
voilà,
l'idée
c'est
qu'on
ça
maîtrise.
Aussi. C'est qu'il y a aussi maintenant des instruments et qu'il y a des possibilités de faire des choses absolument démentielles. Et donc que l'homme peut, d'un seul coup, parce qu'en plus, il y a des gens qui sont vraiment, qui ont l'impression qu'ils vont... faire comme Dieu, c'est-à-dire toucher au paysage et transformer le paysage, c'est-à-dire créer des espèces de montagnes où il n'y en a pas, ou faire des choses tout à fait insensées. Le pire, je trouve que c'est les choses qui sont faites aux abords des villes. Ça, je trouve ça très triste. Je suis très étonnée de voir qu'il n'y ait pas plus de goût au niveau des ronds-points, ou maintenant qu'ils sont devenus extrêmement fréquents, et des approches des villes. Je ne comprends pas pourquoi on continue de planter des prunus pissardis rouges, des choses comme ça, alors que... Il y a des choses tellement belles et tellement simples et tellement... Pourquoi s'il n'y a pas que des tilleuls et des marronniers, des châtaigniers? Enfin, châtaigniers, c'est plus difficile, mais au moins des marronniers, des tilleuls partout. Je ne sais pas pourquoi c'est... Oui, mais et puis en plus, comme il y a des machines, maintenant, on peut faire des choses insensées. Hein. On peut transporter un olivier d'Espagne et le mettre dans un jardin de l'Eure-et-Loire. On fait des choses insensées.
Vous avez vu, les oliviers sont en péril. De nouveau, la chenille va frapper.
En Italie
été. Partout, paraît-il.
Elle est arrivée en France, ah oui, c'est vrai.
Oui, elle est arrivée par le sud de l'Italie. Enfin, c'est pas exactement une chenille, mais bon. C'est un.
Je pense c'est un champignon, non?
Non, non, c'est un insecte. C'est un insecte? Problème de gestion très particulière. On a cultivé des oliviers de façon là aussi industrielle et intensive, en traitant les sols pour qu'il n'y ait rien d'autre que le peuplier. Et l'animal qui se nourrit de cette plante comme d'autres plantes, elle ne trouve en plus qu'une seule espèce, et voilà. Et à ce moment-là, crée des dégâts énormes.
Ah ouais,
la monoculture est dangereuse.
Hein. Oui.
Aujourd'hui, par rapport donc aux problèmes qui deviennent de plus en plus urgents, de la biodiversité, de la disparition de certaines espèces, du non-respect de la nature... On vous sait tous les deux engagés. Catherine, vous avez manifesté à chaque fois que vous le pouvez pour le respect de la nature. Comment oui. faire en sorte que les tutelles politiques se rendent compte, alors que nos petits-enfants le savent et vont manifester dans les rues? Comment se fait-il que nos tutelles politiques, même si elles sont assez jeunes et hyper compétentes, ne se rendent pas compte de l'importance de cette thématique? Qui est obsédante et entêtante.
J'ai l'impression qu'ils ont d'autres priorités parce qu'ils ont à gérer des choses qui sont malheureusement beaucoup plus, peut-être, beaucoup plus présentes, beaucoup plus immédiates, beaucoup plus graves, beaucoup plus. Donc, c'est vrai que bon, les abeilles, par exemple, qui disparaissent, ça fait des années qu'on en parle. On a l'impression qu'aujourd'hui, on en parle plus, donc peut-être que les choses vont changer. Mais quand je vois quand même aujourd'hui que Monsanto va avoir le droit de vendre encore le. Et en même temps, moi, j'en ai parlé avec des professionnels. Le problème, c'est que ça fait des années qu'ils cherchent, mais ils n'ont pas trouvé de remplacement
du glyphosate.
Ils n'ont pas trouvé de remplacement qui soit aussi efficace. Donc, alors, en même temps, c'est vrai qu'il y a d'autres choses, mais à un niveau, je veux dire, disons, d'un pays et non pas d'un jardin, d'un particulier. C'est vrai qu'il y a des surfaces énormes, mais on sent quand même que les choses changent. Alors, je ne sais pas si ça va changer assez vite, mais on voit quand même des agriculteurs qui décident de passer au bio, qui accepte quand même l'idée qu'ils vont rester pendant un an ou deux sans rien faire, puisqu'il faut que le terrain se repose, tout ça. On a l'impression quand même que les choses changent, mais je ne sais pas si ça va changer assez vite pour empêcher les dégâts terribles qui sont en train de se passer partout dans le monde. Au niveau, alors je parle des abeilles parce que les abeilles, c'est très très grave et c'est très très important pour la nature partout dans le monde, mais il y a plein d'animaux qui sont en train de disparaître. C'est vraiment quelque chose de... J'ai l'impression que oui, qu'il y a d'autres priorités, malheureusement.
Avant que l'infidèle à la beauté assassine, ne me morde de la main, ne me couronne d'épines. Brisa dorée, la dorée. Avant que ces baisers ne deviennent couteaux, que ces bouquets de fleurs ne me fassent la peau. Des adorés, l'adorés, mais amourés, ce chagrin si haut que je porte, beau comme un drapeau, en un cœur dont on admire le sort, courageux qui sait aimer trop fort, car comme les dieux, qu'on adore adorer. J'adorais l'adorer. J'ai été si vivant chaque minute, chaque seconde. Mais avant d'abhorrer ces humeurs vagabondes, des adorés, l'adorer.
Avant que l'infidèle à nouveau nous sévisse, qu'inéluctablement le destin s'accomplisse.
Des adorés, l'adorer.
Gilles Clément, comment vous comprenez cette sous-estimation de ce danger vital pour l'espèce humaine?
Compatibilité entre cette préservation de la diversité dont nous dépendons, c'est-à-dire finalement notre propre préservation.
C'est nous qui dépendons de la nature.
Naturellement, oui, bien sûr. Et le
alors pourquoi on l'oublie autant? Pourquoi on est vivant dans ce monde qui l'oublie autant?
Surtout qu'on représente très peu de choses par rapport à la nature. Si on regarde la planète entière et qu'on regarde les surfaces, on y représente très peu de choses par rapport à la nature. Mais il n'empêche qu'on
a pris le dessus.
Et alors en même temps, on dépend complètement de... Enfin, c'est très...
Et il n'y a aucun projet politique aujourd'hui qui permette de passer à cette dimension de la protection de la diversité, de la vie en général, et donc de nous, bien sûr. Ce sont des incompatibilités aussi de termes, de temps. L'échéance électorale, elle est avec des temps extrêmement courts. Un projet politique qui serait construit sur une base qui est écologique, il lui faut du temps. Pour dépolluer un sol, il faut une trentaine d'années. À peu près. Ça dépend un peu de la nature de la pollution. Mais on sait que la désotrophisation, c'est-à-dire finalement la dépollution de certaines surfaces de volume d'eau et de la mer, pour arriver à quelque chose qui se rééquilibre, il faut effectivement ce genre de temps-là. Donc il faut le commencer. Et nous payons quelque chose qui a été engagé il y a
longtemps.
Fin du 19e, même avant.
Oui, quand il y a commencé à avoir des grosses machines et des possibilités de faire des choses.
Eh bien, il faut engager quelque chose que d'autres que nous vont profiter un peu plus tard. Pour l'instant, c'est la loi du marché, ça rapporte, on le fait, ça tue, on s'en fout, ça ne rapporte pas, on ne le fait pas. C'est tout. Il n'y a que ça. Il n'y a pas de projet politique, il y a une règle, celle du profit.
Oui, voilà, c'est ça, malheureusement. Oui.
C'est tout.
Oui, mais on sent bien que de plus en plus de personnes, de plus en plus de...
Oui, bien sûr.
Oui, oui. À travers le monde, sont très concernées. C'est comme s'il y avait une coupure par rapport au monde paysan de nos grands-parents, par exemple, et que ce désir de racines, de perception de la nature devient prépondérant. Regardez le succès de ce livre... L'homme qui parlait aux arbres.
Ah oui, les arbres qui pensent, qui communiquent, oui.
Vous y croyez, vous?
Je pense à une forme de communication, puisque c'est...
Vous parlez aux arbres?
Non, je ne parle pas aux arbres. Je les caresse déjà, je trouve que c'est bien.
Ah bon?
Je leur parle pas, mais je peux leur dire qu'ils sont beaux si je passe et que je les touche. Ah oui, je peux le toucher. Mais je veux dire, je ne vais pas en faire non plus... je ne vais pas faire une prière non plus. Il ne faut pas non plus... non, ce n'est pas jusque-là. Mais je pense que les plantes ont absolument une intelligence, entre guillemets, qui fait qu'elles survivent. On sait qu'il y a des plantes qui, grâce aux champignons, peuvent développer et garder l'eau l'été quand ce sont dans des... Enfin, il y a des choses... Il y a des choses étonnantes dans la nature, donc je pense que il y a une forme d'intelligence et de bonne entente, d'une certaine façon, des plantes qui se défendent, et puis comme dans la nature, comme les animaux, certaines qui meurent parce qu'elles ne peuvent pas résister en phase de compétition, mais qu'il y a quand même une entente et une connaissance, oui, un respect de l'autre par la force des choses.
Alors Gilles, vous êtes un spécialiste de
non,
ça.
Non, 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 moi,
si, parce que vous nous avez fait découvrir à quel point... des plantes ou des fleurs peuvent continuer à vivre, y compris sur des pierres.
Sans... Oui, ça, bien sûr. Il y a des séries floristiques pour tous les milieux, y compris les plus secs et les pires, comme on puisse imaginer. Ça marche. Mais la conversation entre les plantes, ça, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. C'était évoqué par des personnes d'expérience, empiriquement, qui avaient découvert qu'il y avait des proximité positive et d'autre part entre les plantes, on les traitait de poètes ou de sorciers ou de sorcières. Et c'est tout. Alors que la science aujourd'hui a finalement dit non, non, pas du tout. Ça existe. L'acacia épineux, sans doute vous connaissez l'exemple, dans le sud de l'Afrique, quand l'impala a trop mangé les feuilles, il en a assez, il met des toxines dans ses feuilles. Là, l'animal, il s'en va. Mais dans le même temps, il émet un gaz éthylène qui prévient les autres acacias. Si par hasard l'impala y va, il meurt. Donc l'arbre se protège. C'est une sorte de discussion complexe entre les plantes et les plantes et les plantes et les animaux. Discussion, peut-être pas le mot qui conviendrait, mais c'est une communication.
Une communication, oui.
Une forme de conversation.
Un peu.
Qui passe par le tactile.
Oui.
Par l'intelligence du vivant.
Oui, oui, par
l'odorat,
les émissions de
magnétiques, oui.
Oui, oui. C'est de plus en plus étudié scientifiquement, mais malheureusement, ça n'est pas mis à la disposition des jardiniers. Ça nous permettrait d'accéder à la gratuité, ça ne plaît pas non plus au marché.
Ah oui, c'est ça. C'est
donc c'est uniquement les laboratoires qui en sont propriétaires pour le moment. Oui. Mais viendra peut-être un temps où ils partageront.
J'ai fait un protocole comme ça. Pour le
CNRS. Vous vous battez pour ça depuis longtemps.
Oui, pour le CNRS à Cargès, avec un jardin, mais le protocole n'a jamais été réalisé. Ça gêne, c'est toujours pour les mêmes raisons.
Parce qu'il y a trop d'intérêts financiers.
Oui, alors qu'on m'avait demandé de faire une proposition de protocole de
recherche. Ils n'ont jamais pu le mettre en...
Ils n'ont pas voulu.
Ah, ils n'ont pas voulu.
La première personne qui était la directrice a dit oui, c'était elle, ça l'intéressait. Le changement de direction, c'est terminé.
C'est ça le problème. Moi, je trouve que c'est trop court, les mandats. Finalement, un mandat présidentiel de 5 ans, c'est trop court.
Oui.
Parce que pour réaliser quelque chose... Avant, c'était 7 ans, c'était déjà mieux, mais je trouve qu'il faudrait 10 ans. Bon, je ne parle pas à l'image par rapport à la nature, par rapport à des choses où, en effet, c'est 15 ans, 20 ans. Mais au moins 10 ans.
Oui, oui.
Il y a des choses qui sont impossibles à réaliser en 3-4 ans.
Alors, il y a des exemples un peu exceptionnels. Vous voyez, la commune de Moinsartou, depuis 30 ans, avec un maire qui fait une gestion écologique, ce qui est complètement exceptionnel. C'est bon. Et le fils continue maintenant. Mais parce qu'il y a eu une équipe qui est restée, quelle que soit l'échéance des mandats. L'équipe a toujours été là et ils avaient un projet écologique qui tient la route aujourd'hui, qui continue. Quoi.
Et il y a de plus en plus de cultures, effectivement, écologiques qui se mettent en place, en tout cas sur le territoire français.
Oui, oui, heureusement.
Heureusement, oui.
Et avec des gens jeunes. Hein. Ça, ça donne de l'espoir.
Oui, on voit des gens de plus en plus jeunes, c'est vrai, qui s'intéressent à ça d'une façon très passionnelle.
Ils ont compris, et pour leur avenir, et pour leurs enfants, et pour les enfants de leurs enfants.
Exactement. Et pour la planète, il y en a beaucoup qui parlent aussi vraiment en pensant à la planète, et pas seulement à leur environnement, à leur pays, ou à... Oui, heureusement.
Alors on va se quitter, je vais vous poser deux questions absolument bêtes et sentimentales, mais je n'y résiste pas. Quel est votre arbre préféré, chacun ?
Alors, voilà une question difficile.
J'hésite entre deux arbres, ce serait le chêne ou le tilleul.
Pourquoi ?
Le chêne, parce que quand il arrive à l'âge adulte, il n'est jamais arrivé à l'âge adulte, donc il est toujours de plus en plus beau. Et le tilleul, parce que j'aime son feuillage, j'aime l'ombre du tilleul, j'aime son parfum l'été. Et que c'est un arbre qui pousse vite, donc je trouve que c'est un arbre que l'on a la chance de pouvoir voir adulte de son vivant, enfin de le voir vraiment dans sa maturité de son vivant. Parce que le problème pour quelqu'un qui fait un jardin, c'est que c'est très très rare, très exceptionnel de voir un jardin, de le créer et de le voir dans sa maturité. Je me souviens avoir visité il y a très longtemps un jardin en Irlande et on m'avait dit c'est un des rares jardins où le propriétaire a pu contempler son jardin à sa maturité parce que le climat était tellement extraordinaire entre l'humidité, la douceur du climat, son jardin avait poussé 3 fois plus vite qu'il n'aurait poussé ailleurs, dans le sud de l'Irlande. C'était très très beau.
Et vous, Gilles ?
Alors vraiment, vraiment, j'ai du mal à répondre à une question comme ça. Je suis très étonné par les arbres qui réitèrent, qui repartent de la souche, qui ont des capacités de durer dans le temps par des réactions au choc de l'environnement avec une sorte d'intelligence biologique considérable. Et ça touche plusieurs espèces. Mais bon, j'ai pris des photos d'arbres comme ça, d'un châtaignier qui n'est pas de chez nous, mais qui est californien, qui a englobé, dont les racines ont englobé une roche et qui la soulève comme ça. Ça m'a frappé, quoi. Parce qu'il y a eu une érosion, le sol s'est effondré, mais l'arbre est resté avec sa roche, on l'a vu, quoi. Et c'est des choses de ce genre. C'est-à-dire plutôt des comportements magnifiques, comme une fois aussi en Australie, un palétuvier sur une plage qui avait l'air de courir. Parce qu'il avait des
troncs, ah oui, et je des vois, jambes, comme c'était absolument bien, oui.
Extraordinaire.
Mais il n'y a pas visuellement un arbre qui vous plaît plus que les autres?
Ben, j'ai du mal, parce que j'ai beaucoup de...
Parce que vous citez là des cas uniques d'arbres, oui, qui ont résisté à... Oui. Ou en tous les cas qui poussent malgré toutes les impossibilités de... Mais un arbre qui visuellement, par son tronc, enfin par sa couleur, ou sa forme, ou son volume, ou sa lumière, vous plaise plus qu'un autre?
J'adore l'arbre au caramel, mais ça c'est un arbre exotique qui vient du Japon et qui sent le caramel quand les feuilles commencent à tomber à l'automne. Il a un port, il est très gracieux, il a les trembles, les feuilles qui bougent dans le vent. Il a une certaine élégance. Mais enfin, je ne sais pas, il y en aurait d'autres. Hein, je pourrais en donner d'autres.
Alors, dernière question. Quelle est la plante, pour chacun de vous, qui vous impressionne le plus?
Moi, je pense que c'est l'iris. Vous avez dit impressionné, hein? Moi, je pense que c'est l'iris, parce que c'est une plante qui pousse avec rien, dont le rhizome, qui est cette espèce de patate qui doit toujours rester à la lumière et extérieure, donc n'est même pas enterré, a simplement quelques racines, et sort une fleur qui est encore plus extraordinaire que les orchidées, avec un parfum inouï et d'une complexité et d'une volupté incroyable, parce que c'est des pétales qui sont parfois soyeux, avec un côté velouté à l'intérieur, des étamines. Je trouve que c'est une fleur vraiment magique.
La question porte sur une fleur ou
une plante
qui vous étonne, hein, qui vous étonne,
oui, qui vous impressionne.
Qui vous impressionne.
Mais moi, c'est le lierre. Je suis très impressionné par le lierre.
Je crois que c'était un intrus dans la nature et qu'il fallait surtout s'en débarrasser.
Mais
dans
absolument
les jardins.
Pas.
Il a sauvé beaucoup, beaucoup de bâtiments, vous savez,
mais
en France.
C'est
il a sauvé
vision,
beaucoup de bâtiments.
Oui. C'est une vision fausse. Ça n'est pas un parasite, ça n'est pas un intrus. Non. Il a juste besoin d'un appui verticalement pour monter, faire les fleurs qui donnent en plus du miel, et en plus très tardivement en saison. Sinon, il fleurira jamais, il sera au sol comme un couvre-sol. Mais quand je l'ai vu, moi, dans la carrière Meuse Misérie à Nantes, qui est sur 25, 30 mètres de haut, arriver jusqu'en haut en faisant des espèces de montagnes comme ça, ondulantes, c'est complètement fantastique. Un paysagiste, il ne saurait pas faire ça. Hein.
Non.
Du tout. Hein. Là, c'est vraiment, vraiment, j'ai été impressionné. Quoi.
C'est vrai que le lierre a couvert des bâtiments qui sont des bâtiments très anciens et qui n'auraient pas été sauvés si le lierre ne les avait pas englobés, protégés, qui n'existerait même plus.
Il faut tenir dans le temps.
Voilà.
Il faut tenir longtemps. Bah, en tout cas, merci infiniment à vous deux. Merci beaucoup. Le lierre et l'iris et le tilleul.
Et voilà.
Avez-vous mesuré le temps? Avez-vous mesuré le vent? Avez-vous mesuré la nuit, la vie? Viens avec moi, mon vieux pays. Le jour.
C'est avec Émilie Loiseau, « Allez, viens avec moi, mon vieux pays » que nous nous quittons ce soir, non sans avoir remercié Marc Garvenès qui était à la technique ce soir, Lilian Allôme qui a réalisé cette émission, Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux et Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard et Pierre Dindy qui ont préparé cette émission.